Anne, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, Le Monde Aujourd'hui, édition du 17 décembre 2014, en direct de Washington, Nathalie Barge et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition matinale, Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le président malien Ibeka appelle la communauté internationale à mettre fin à l'instabilité en Libye, nuisant aux pays voisins.
En Sierra Leone, nouvelle campagne de porte-à-porte à Freetown dans le cadre de la lutte contre Ebola.
Les Palestiniens soumettent au Conseil de sécurité un projet de résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne.
Et 3 jours de deuil au Pakistan suite à l'attaque contre une école par des talibans qui ont tué plus de 130 enfants.
Et nous aurons donc la Minute Éco, les sports et en fin d'édition la page musicale, mais d'abord le journal.
En Ouganda, près d'un millier d'éléments du M23 se sont dispersés du camp de Bihinga après des échauffourées avec les forces ougandaises à l'aéroport d'Entebbe. Les affrontements ont suivi une opération de rapatriement que les ex-rebelles congolais jugent forcée. Des coups de feu ont été entendus et l'on compte des blessés par balles et à l'arme blanche. Eddie Sango a joint un porte-parole du M23 à Kampala, Lawrence Kanyuka.
Vers 4h du matin, nous avons vu des véhicules camions dans les camps de Bihinga, là où se cantonnaient nos réfugiés ex-combattants, pour les prendre par force et les amener à l'aéroport de Ntebbe, là où se trouvaient déjà des avions du gouvernement, pour les amener à Kinshasa. Ça, c'est un rapatriement forcé et involontaire. C'est contre les lois internationales. C'est pas possible, ça ne peut pas se faire dans le siècle actuel que nous vivons. Et nous avons des lois, nous avons des déclarations qui nous unissent à ce moment. On a signé le 12 décembre 2013 à Nairobi. On devait l'appliquer. Ça s'est passé dans le camp de Bihinga. Si vous regardez bien le communiqué qu'on a envoyé au président de la CIAGEL, nous l'avons dit très bien que nos gens ont fui. Ils ont fui et il y a eu des coups de balle, il y a eu des blessures. Nous avons nos anciens combattants qui sont blessés par des couteaux. Comment vous pouvez déporter les gens? Vous pouvez rapatrier les gens en vous amenant avec des armes blanches? Il y a d'autres qui sont blessés, qui ne peuvent plus marcher.
Lawrence Kanyuka, responsable du mouvement du 23 mars.
La Sierra Leone va commencer aujourd'hui une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population au virus Ebola dans l'ouest du pays, y compris à Freetown, la capitale. Michel Joseph.
L'opération baptisée Western Area Surge devait débuter hier, mais a été légèrement décalée. Elle doit durer jusqu'au 31 décembre. Des équipes du Centre national de coordination de la lutte contre Ebola vont passer au peigne fin toutes les maisons afin de trouver les malades et les emmener vers les centres de traitement. Le président Ernest Bai Koroma a appelé la population à coopérer pour rompre la chaîne de transmission et à ne pas cacher les malades. Par ailleurs, il a confirmé l'annulation des célébrations de Noël et du Nouvel An. Cette année, les rassemblements publics étant toujours interdits. À Freetown, la capitale, les boîtes de nuit sont fermées depuis plus de 5 mois en vertu de l'état d'urgence. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'épidémie d'Ebola a fait quelque 6 900 morts sur près de 18 500 cas, principalement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a prolongé de 6 mois le mandat de la force ouest-africaine en Guinée-Bissau. Bagassi Koura nous en dit plus.
La décision a été prise lors du 46e sommet ordinaire des dirigeants de la CEDEAO tenu lundi à Abuja, mais a été annoncée hier par le président José Mario Vassa à son retour à Bissau. Le mandat de l'ECOMIB, qui devait expirer le 31 décembre, est donc prorogé pour 6 mois. L'ECOMIB compte plus de 700 policiers, gendarmes ou militaires fournis en majorité par le Nigeria. Elle a été déployée après le coup d'État du 12 avril 2012 entre les deux tours de l'élection présidentielle. La transition a pris fin en mai cette année avec l'élection de José Mario Vaz. Le pays a connu de nombreux coups d'État depuis son indépendance en 1974. Cette instabilité chronique et la pauvreté ont facilité l'implantation de trafiquants de drogue avec la complicité présumée de hauts gradés de l'armée bissau-guinéenne.
lors du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique organisé à Dakar. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé la communauté internationale à mettre fin à l'instabilité en Libye, indique l'AFP. Il a exhorté son homologue tchadien Idriss Déby, dont le pays siège au Conseil de sécurité, à saisir les Nations Unies de la situation dans le sud de la Libye en particulier, d'où proviennent de nombreuses armes utilisées par les groupes armés qui sévissent dans certains pays de la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Palestiniens ont annoncé qu'ils soumettront aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne. Mais le gouvernement américain ne va pas appuyer cette démarche, le point avec Chérubin Dorsil.
L'initiative palestinienne a fait l'objet de plusieurs rencontres à haut niveau du secrétaire d'État américain John Kerry cette semaine à Londres et à Paris. Suite à un entretien dans la capitale britannique avec le principal négociateur palestinien, le chef de la diplomatie américaine a averti que les États-Unis useraient de leur droit de veto au Conseil de sécurité pour faire échec à la résolution. Malgré l'assurance d'un veto américain, dit l'AFP, les Palestiniens ont dit au chef de la diplomatie des États-Unis, principal allié d'Israël, qu'ils ne renonceraient pas à leur projet de résolution, a rapporté sous couvert de l'anonymat un haut responsable proche des discussions. Si les États-Unis font usage de leur veto, les Palestiniens demanderont aussitôt leur adhésion à une série d'organisations et de conventions internationales, parmi lesquelles la Cour pénale internationale, a répondu Saeb Erekat à John Kerry, selon ce responsable. Là aussi, Ramallah fera face à l'opposition de Washington, car une adhésion à la CPI permettrait aux Palestiniens de poursuivre Israël pour crimes de guerre.
Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a fermement condamné hier, au nom de la communauté internationale, le massacre au Pakistan de près de 150 personnes, dont une majorité d'écoliers. Monsieur Ban s'est prononcé quelques heures après la revendication par les talibans pakistanais de l'attaque contre une école d'enfants de militaires à Peshawar. Aucune cause ne peut justifier une telle brutalité, aucun grief ne peut excuser une telle horreur, a-t-il déclaré. Le prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, qui a été blessé par balle par les talibans pakistanais il y a 2 ans, a appelé à l'unité dans la lutte contre le terrorisme. De nombreuses voix se sont élevées pour condamner l'attaque, jusqu'à celle des talibans afghans qui ont dénoncé le massacre, le qualifiant de non-islamique.
Le président Barack Obama a décidé de signer une loi autorisant davantage de sanctions contre la Russie pour son rôle dans la crise en Ukraine, a indiqué la Maison-Blanche. Ce projet de loi donne également l'autorité au président de fournir 350 millions de dollars d'aide militaire létale et non létale au gouvernement de l'Ukraine. Cette aide potentielle comprend des armes anti-chars, des munitions et des drones de surveillance. Elle implique que le président impose de nouvelles sanctions sur les secteurs de la défense et de l'énergie de la Russie si les entreprises russes vendent ou transfèrent des équipements militaires à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie ou à la Syrie.
Le républicain Jeb Bush a beaucoup surpris hier en annonçant qu'il pourrait se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Timothée Donangmaï.
J'ai décidé d'explorer activement la possibilité d'être candidat à la présidence des États-Unis, a-t-il annoncé hier dans un message sur Facebook. Jeb Bush va donc chercher à mobiliser les centaines de millions de dollars dont il aura besoin pour concrétiser son ambition. Le chemin sera long avant les primaires du Parti républicain en début 2016. Plus d'une dizaine de personnalités envisagent de se présenter, notamment Chris Christie, gouverneur du New Jersey, Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas, de même que les sénateurs Rand Paul, Ted Cruz et Marco Rubio. Jeb Bush, 61 ans, est le frère cadet de l'ancien président George W. Bush. Il était gouverneur de l'État de Floride pendant la présidentielle de l'an 2000, lorsque tout le pays vivait au rythme des recomptes des suffrages dans son État. Côté démocrate, Hillary Clinton est sur toutes les lèvres, mais elle n'a pas encore annoncé clairement ses intentions.
Un jury américain a décidé qu'Apple Corporation n'a pas agi illégalement en limitant les achats de musique sur iPod à partir d'iTunes lui appartenant. Le jury en Californie a statué hier en faveur d'Apple dans un recours collectif déposé par des particuliers et des entreprises qui ont acheté des iPod. Il demandait quelque 350 millions de dollars en dommages et intérêts. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, c'est un regard sur l'actualité économique en Afrique. Nicolas Pinault pour en parler. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Symbole de la croissance économique ivoirienne, inauguration du troisième pont d'Abidjan.
Construit en un peu plus de 2 ans par les équipes de Bouygues, le pont à péage Henri Konan-Bédier doit fluidifier la circulation de la capitale économique ivoirienne. Son ouverture à la circulation est l'aboutissement d'un projet lancé en 1997 et qui au total aura coûté 270 millions d'euros. Ce pont reliera la Riviera et la commune de Marcory en enjambant la lagune Ébrier.
Autre bonne nouvelle, Nicolas, pour l'économie ivoirienne, le géant pétrolier Exxon va investir dans le pays.
Le groupe américain a signé 2 contrats de partage de production avec la Côte d'Ivoire pour l'exploration et l'exploitation de 2 blocs pétroliers en eau profonde. Environ 400 millions de dollars d'investissement sont prévus à partir de 2015. Cette annonce marque le retour d'ExxonMobil dans le bassin sédimentaire ivoirien 32 ans après sa sortie.
Et au Gabon, le gouvernement reconnaît importer du pétrole pour faire face à la grève qui dure depuis 2 semaines.
Oui, dans un communiqué, le ministère du pétrole et des hydrocarbures explique avoir pris des mesures urgentes. 7 millions de litres d'essence sans plomb et 15 millions de litres de gazole ont ainsi été livrés depuis dimanche au dépôt d'Owendo qui approvisionne Libreville. L'Organisation nationale des employés du pétrole, qui a lancé une grève générale et illimitée, va durcir le mouvement suite à l'échec des négociations avec le gouvernement.
Merci beaucoup Nicolas pour la Minute Éco. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, les sports avec Timothée Donangmaï. Mondial des clubs au Maroc, le Real de Madrid n'a pas fait de détails.
Facile victoire 4-0 en demi-finale face aux Mexicains de Cruz Azul. Sergio Ramos, Benzema, Balé et Isco ont inscrit les buts de la victoire madrilène. Les Espagnols rencontreront en finale le vainqueur de l'autre demi-finale entre Oakland City et San Lorenzo.
Et pour les préparations à la CAN 2015, le Mali se préparera au Gabon, n'est-ce pas Timothée?
Les Aigles entreront en préparation à partir du 3 janvier à Bitam. Le stage sera ponctué de 2 matchs amicaux contre l'Afrique du Sud le 9 janvier et contre le Gabon le 12.
Et Thierry Henry a annoncé sa retraite sportive.
L'ancien international français qui évoluait aux Red Bulls de New York jusqu'à cette saison tire donc sa révérence à 37 ans. Thierry Henry, monument du football français et meilleur buteur de l'histoire des Bleus, met un terme à sa carrière pour devenir consultant auprès de la chaîne de télévision britannique Sky Sports. Champion du monde en 1998, champion d'Europe en l'an 2000, Henry a été l'un des acteurs principaux de l'âge d'or de l'équipe de France, dont il a porté le maillot à 123 reprises.
Une affaire de dopage pour 2 marathoniennes kenyanes.
Et oui, malheureusement, Viola Kimeto et Joyce Kiplimo ont été suspendues 2 ans après avoir été contrôlées positives aux anabolisants. Ces suspensions font suite à la révélation choc en octobre du contrôle positif à des substances interdites de la kenyane Rita Jeptu, considérée comme la meilleure marathonienne au monde. Et pour terminer, la NBA, championnat de basket nord-américain, les résultats de la nuit dernière.
Washington Wizards a gagné contre Minnesota Timberwolves 109 à 95. Miami Heat l'a emporté contre Nets Brooklyn par 95 à 91. Maverick de Dallas est vainqueur contre les Knicks de New York 107 à 87. Utah Jazz a perdu 111 à 119 contre les Pelicans de la New Orleans. Et les Grizzlies de Memphis ont gagné contre Golden State Warriors 105 à 98.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, avec vous Nathalie Barge, à présent les dossiers du jour. Lutte contre Ebola. Les autorités guinéennes redoublent d'efforts en matière de surveillance et de contrôle sanitaire. La situation continue d'être préoccupante en Guinée forestière, épicentre de l'épidémie. JPEGO, une ONG liée à l'université Johns Hopkins dans l'état du Maryland ici aux États-Unis, agit sur le terrain. Timothée Donangmaï a joint à Baltimore la directrice de l'ONG pour la Guinée, le docteur Yolande Ijazi.
Nous avons mis en œuvre toutes les interventions dont je vous ai parlé, la prévention au niveau des structures sanitaires pour les prestataires de services et les patients qui sont là, la sensibilisation des populations, la mise en place des comités de veille et les unités de prise en charge, la mise en place des unités de prise en charge d'Ebola qui sont en train d'être multipliées parce que nous avons maintenant des centres de traitement. Nous avons 9 centres de traitement dans le pays, nous avons environ une quinzaine de centres de transit et il y a des centres de traitement communautaire qui vont être mis en place, une soixantaine qui vont être mis en place.
Est-ce que la réponse internationale a maintenant atteint un niveau satisfaisant sur le terrain?
Oui, je pense que oui. Il y a une très bonne collaboration entre le ministère de la Santé, le gouvernement et le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Information, le gouvernement en général et les différents partenaires.
Qu'en est-il de la réponse de pays comme les États-Unis qui ont déployé du personnel militaire et des ingénieurs sur le terrain?
Oui, leur présence est très importante sur le terrain parce qu'en plus de ce que vous venez de citer, il y a CDC qui est sur le terrain, il y a l'USAID dans sa section pour les réponses des urgences et l'USAID même au niveau de la mission du pays qui sont tous impliqués dans la réponse à Ebola. Et donc leur participation est vraiment importante. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous, JPEGO, nous avons reçu un financement de l'USAID pour pouvoir former environ 2000 prestataires de services en prévention des infections pour pouvoir être sûrs qu'ils vont eux-mêmes être protégés et aussi protéger la population qui vient dans les structures sanitaires. Et donc, nous avons commencé cette mise en œuvre il y a déjà environ un mois. Nous avons formé des formateurs et nous sommes en train de former des vagues de 100 à 150 prestataires de services dans la région de Conakry, la région de Beila, qui est une région forestière où la flambée est très forte, et la préfecture de Forêt-Karia, qui est une préfecture de la région de la Basse-Guinée, où on vient de découvrir un foyer où il y a une flambée. Par ailleurs, pour préparer les autres pays de la sous-région à prendre en charge une éventuelle flambée d'Ebola dans certains pays, JPEGO va organiser au mois de janvier une formation régionale pour la prévention et le contrôle des infections pour 39 prestataires venant de 9 pays.
Au plan régional, il y a toujours cette question des frontières. Faut-il les fermer ou les maintenir ouvertes? Qu'en est-il exactement?
La Guinée n'a pas opté pour la fermeture des frontières, mais plutôt pour renforcer la surveillance au niveau des frontières. Et c'est pour cela qu'il y a des comités de veille qui ont été mis en place et qu'il y a des centres de traitement communautaire qui sont en train d'être mis en place tout le long de la frontière. Parce que de toute façon, même quand on demande de fermer les frontières, je crois qu'aucun de nos pays africains n'a vraiment la capacité de fermer les frontières terrestres parce que vous savez que les frontières terrestres sont très poreuses.
C'était Yolande Ijazi, directrice pour la Guinée de l'ONG JPEGO.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
La Journée internationale des migrants sera célébrée demain, le 18 décembre, à travers le monde. Au Kenya, où se sont réfugiées de nombreuses personnes fuyant des conflits, les Somaliens doivent relever de grands défis dans leur nouvelle vie dans ce pays. Voici un reportage réalisé sur place par La Voix de l'Amérique et présenté par Lionel Gaïma.
Ahmed Chassi, 22 ans, vend des vêtements à Eastleigh dans la banlieue de Nairobi, la capitale kényane. Il y a 4 ans, il s'est associé à deux amis pour importer des habits de Dubaï et de Chine pour les revendre. Leur entreprise est florissante et leurs clients viennent pratiquement de partout. Ce qui rend cette histoire intéressante, c'est qu'Ahmed Chassi est venu de Mogadiscio, la capitale somalienne, qu'il a fouillé à 7 ans. Mais il en rêve moins de retourner un jour chez lui pour aider à reconstruire son pays. Pour Ahmed, il y a toujours en Somalie des combats, des terroristes. Tant que la paix ne sera pas rétablie dans le pays, on ne pourra pas y vivre. Il va donc attendre là où il est au Kenya, où il peut vivre et travailler. Eastleigh est appelé Petit Mogadiscio à cause des milliers de migrants somaliens qui y résident. La plupart d'entre eux ont régularisé leur situation et sont citoyens kényans depuis au moins 2 ou 3 générations. Le journaliste Asad Hassan est arrivé en Somalie en 2006 au summum de l'insurrection d'Al-Shabaab. Il travaillait à Horn Africa Radio, dont s'étaient emparés les extrémistes. Aujourd'hui, il est avec Star FM qui, à partir d'Eslay, est entendu non seulement au Kenya, mais aussi dans les parties de la Somalie. Il parle ici des défis auxquels les Somaliens font face au Kenya. D'abord, il y a le profilage ethnique, le délit de faciès. Ensuite, il y a l'absence de documents. Nous sommes venus ici depuis si longtemps qu'il nous est difficile d'obtenir des pièces d'identité requises au Kenya. Et quand la police tombe sur nous, elle nous demande pourquoi nous ne les avons pas. Il y a 2 semaines, l'Organisation internationale des migrations, en collaboration avec l'OACR, a commencé le rapatriement volontaire de 94 réfugiés somaliens, 23 ans après que le conflit et la famine les eurent chassés de leur pays. Le processus est appuyé par Mogadiscio. Le coordonnateur Michael Pillinger de l'OIM insiste sur le traitement humain dont jouissent les réfugiés somaliens. L'OIM, avec des partenaires comme le HCR, le gouvernement du Kenya et d'autres organisations, s'assure que les réfugiés qui viennent au Kenya ont tous les services adéquats à leur disposition en tenant compte de leurs préoccupations, qu'ils soient en transit ou autorisés de rester temporairement au Kenya.
Le Pakistan et le monde sont encore sous le choc après l'attaque des talibans pakistanais contre une école d'enfants de militaires à Peshawar. Un massacre qui a coûté la vie à près de 150 personnes, dont au moins 132 enfants. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint à Paris Gilles Bocquera, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Qu'on s'attaque à l'armée, c'est pas surprenant, vu que l'armée mène depuis juin 2014 une opération dans le Nord-Waziristan qui vise à déloger tous les éléments terroristes, djihadistes résidant dans cette zone des régions tribales pakistanaises. Et effectivement, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on fasse une attaque aussi impopulaire, évidemment, en s'attaquant à des enfants. C'est un peu une sorte de fuite en avant du mouvement taliban pakistanais. Il n'y a jamais réellement eu de soutien de l'État et de l'armée pakistanais aux talibans pakistanais, j'entends. Effectivement, il y a eu un soutien aux talibans afghans, à travers notamment le fait que la Quetta Shura soit logée au Pakistan ou que le réseau Akali des talibans afghans avait la bienveillance des services secrets pakistanais tant qu'ils s'attaquaient à la présence occidentale en Afghanistan.
Des voix critiques se sont souvent faites entendre ici à Washington pour dénoncer le laxisme des autorités pakistanaises. On l'avait vu notamment concernant la mort d'Oussama Ben Laden. Est-ce toujours le cas ?
Cette opération militaire a été menée par Raïf Sharif à l'instigation, à la demande des Américains, mais aussi des Chinois, montre qu'il y a une plus grande réceptivité de l'armée pakistanaise aujourd'hui aux requêtes américaines en ce sens. Notamment, ça a été personnifié par la visite du chef des forces armées pakistanaises Raïf Sharif aux États-Unis en novembre 2014. Une longue visite d'une semaine, au cours de laquelle notamment le chef de l'armée pakistanaise a réitéré l'intention de l'armée pakistanaise de combattre définitivement les mouvements djihadistes qui pouvaient se trouver au Waziristan et au Nord-Waziristan notamment.
Est-ce que cette attaque de Peshawar montre le déclin des talibans pakistanais ou leur force ?
Non, il est beaucoup moins fort pour une simple raison, notamment c'est les divisions au sein de ce mouvement taliban. Divisions qui se sont accélérées au cours de l'année écoulée, suite notamment à la mort dans une attaque de drone américaine de leur dirigeant Hakimullah Massoud en novembre 2013, à la suite de quoi on a vu certains groupes parmi ces talibans pakistanais prendre leur distance. Les Massoud notamment, l'ethnie Massoud en mai 2014 a pris ses distances. Il y a plus récemment les Punjabis, ce qu'on appelle les Punjabis talibans, qui en septembre ont annoncé qu'ils s'attaqueraient plus à l'État pakistanais. Donc ce qu'on voit, c'est que ce mouvement taliban qui était né à fin d'année 2007, depuis un an, est en train de se fissurer et être plutôt en perte de vitesse.
Le chercheur Gilles Bocquera était joint à Paris en France.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum reçoit ce jeudi Kadiatou Diallo, la mère d'Amadou Diallo. Ce jeune homme d'origine ouest-africaine abattu en 1999 par des policiers de New York. 15 ans après, gros plan sur les manifestations qui se succèdent aux États-Unis pour réclamer justice après la mort récente de plusieurs Africains-Américains sous les tirs de policiers. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Nathalie. Boubacar Traoré est un chanteur renommé, guitariste et compositeur des chansons. Hein. Il est surnommé Carcar, qui veut tout simplement dire cassé-cassé, en référence au dribble du football qu'il pratiquait assidûment quand il était encore jeune. On l'écoute ce matin dans Mariama.
C'est qu'après la mort en couche de son épouse en 1989, Boubacar Traoré a émigré en France et il a effectué des travaux dans la construction pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants.
Oui Nathalie, et c'est là où un producteur britannique découvre une bande de ses enregistrements radio à Bamako, s'est mis alors aussi à sa recherche et lui fait signer un contrat. Je rappelle que Boubacar Traoré est apparu dans les années 1960. Il était une vedette au Mali et un symbole du pays nouvellement indépendant, Nathalie.
Boubacar Traoré qui interprète Mariama. Merci beaucoup Roger.
Ben c'est moi qui vous remercie Nathalie. Cette chanson était dédiée à toutes les Mariamas de la planète.
On retrouve Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel. Voilà sur cette douceur musicale que se referme Le Monde aujourd'hui, mise en onde par Anne Albertson, Nathalie Barge à Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique, VOA Afrique.